Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Reprise ce vendredi à Kinshasa de la délivrance des passeports après plus de mois de rupture. La nouvelle est confirmée à Radio Kapi par l'ambassadeur Kabongongo et secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Le président de la République est en Belgique pour se faire soigner d'une hernie discale. Son cabinet rassure qu'après quelques jours de repos et des visites privées, Félix Tshisekedi Tshilombo va regagner le pays. Notre invité, c'est la coordonnatrice du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Madame Gisèle Tabou parle d'un projet de 7 ans à exécuter au Maniema, au Kasaï oriental, au Kasaï central et au Lomami pour 130 millions de dollars américains. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, Jean-Claude Nsiala est sur les manettes. Bonne nouvelle pour les requérants des passeports. Après plus de mois, le ministère des Affaires étrangères a repris ce vendredi à Kinshasa la délivrance des passeports. La nouvelle est confirmée à Radio Kapi par le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Kabongongo s'est confié à Blaise Shindani Kambala.
Nous avions connu une carence de laminat par le fait que les fabricants américains, à cause de la Covid, avaient réduit la production. Donc ce n'est pas par le fait du gouvernement congolais ou du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas aussi parce que l'argent avait manqué, mais tout simplement parce que les fabricants, lui-même, à cause de cette situation de la maladie, a pu décider de réduire la production. Au jour d'aujourd'hui, la solution est déjà trouvée parce que nous avions reçu 6 rouleaux de laminant qui peut permettre à produire 9000 passeports. Donc on ne peut plus parler de la situation de carence, donc pour le moment.
Quand est-ce que le premier passeport sera de nouveau délivré?
Mais à partir d'aujourd'hui, parce que nous avions reçu les rouleaux depuis hier. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus question de carence. Donc peut-être le problème, parce qu'on a accumulé beaucoup de passeports, donc on ne saura pas dans un petit temps satisfaire à tout le monde, mais au moins la production commence déjà.
Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, se porte bien et n'a pas subi d'opération à cœur ouvert en Belgique, selon sa porte-parole adjointe. Madame Tina Salama affirme que le chef de l'État est allé à Bruxelles pour un contrôle médical de routine. Elle a été jointe par Pierrot Elamegi.
Effectivement, nous avons tous été surpris de voir une information erronée circuler sur les réseaux sociaux également, ou dans certains médias, mal de sensation, parce que j'estime en tout cas que quand un média a besoin d'une information, il va à la source. On n'a jamais été contacté par aucun média pour vérifier. Et donc, du coup, on s'est réveillé comme ça, les gens racontaient que les présidents avaient subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, je tiens à vous rassurer, à vous dire que le président n'a subi aucune opération à cœur ouvert. Le président de la République se trouve à Bruxelles pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un check-up normal, donc un contrôle de routine. Donc son médecin lui a proposé de se reposer pour quelques jours. Il va très bien, il rentre à Kinshasa dans les prochains jours. On peut avoir une date précise, mais c'est à sa discrétion. Il peut décider d'avancer d'un jour, de reculer d'un jour. Donc c'est à la discrétion du chef de l'État lui-même. C'est selon son agenda, les rencontres qu'il a prévues de faire. En tout cas, moi, je vous garantis qu'il va très bien. Il n'a subi aucune opération à cœur ouvert et qu'il revient à Kinshasa bientôt.
Le site web de la présidence ajoute que le chef de l'État est à Bruxelles pour se faire soigner d'une hernie discale. La source précise qu'après quelques jours de repos en famille et des visites privées, il va regagner la capitale très prochainement. Dans un autre chapitre, une fille de 12 ans est portée disparue mardi dernier à Bandundu, ville chef-lieu de la province du Kwilu. Esteline Mboma, c'est son nom, revenait de festivités de la Journée internationale des droits de la femme avec ses amis. Depuis, pas de nouvelles d'elle. Son père sollicite par conséquent l'intervention des autorités pour la retrouver. Crispin Mboma est au micro d'Irene Mboma.
Je tiens à informer l'opinion des Bandundu et toutes les autorités sécuritaires ainsi que les services de renseignement de la disparition de ma fille Estelle Moma, âgée de 12 ans depuis le 8 mars 2022. Pour une petite histoire, elle était sortie le 8 mars à 16h, habillée en pagne de couleur rouge, portant une chaussure de couleur blanche, accompagnée de ses amis. Arrivée au rond-point Bitoula, ses amis ont rebrousser chemin. Elle a par contre désiré de poursuivre le chemin. Et depuis lors, nous n'avons aucun renseignement ni information de sa part. Depuis le 8 mars, ma fille Estelle Moma est portée disparue. Nous sollicitons l'intervention des services urbains et provinciaux de sécurité ainsi que les personnes de bonne volonté pour retrouver notre fille encore mineure et élève en quatrième primaire.
Et puis l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Tchebeya Bahizire et Fidel Bazana a inspiré les acteurs de la société civile à se doter d'une loi de protection. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier entre plusieurs associations de la société civile ce vendredi pour influencer les députés nationaux à prendre des mesures adéquates. Une proposition de loi de protection a déjà été endossée par un député national. De précision avec Junior Safari du réseau des protections des victimes, témoins et professionnels de médias, il est dit à Jeff Ngoy.
Alors, parlant de l'opportunité, ce que nous devons retenir de cela, c'est que la proposition de loi est venue d'un contexte ou des observations qui ont été, ça et là, décriées, que ce soit par les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit par les partenaires accompagnants des défenseurs des droits de l'homme. Il y a la fragilité qui a été observée sur le terrain. À travers cette fragilité, il y a eu des recrudescences des menaces, il y a eu des arrestations multiples des défenseurs des droits de l'homme dans tous les pays. Il y a le contexte politique qui n'est toujours pas favorable dans le travail des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi cette manque de reconnaissance, de légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme. D'autre part, quand même évoquer les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le cadre des dialogues et d'échanges, bien évidemment, à travers plusieurs actions de plaidoyer menées par les organisations de la société civile.
Partons maintenant pour le Nord Kivu où les acteurs clés du territoire de Masisi sont réunis à Goma pour un nouveau dialogue de 2 jours. Les délégués de la société civile, ceux de l'administration et de la sécurité passent en revue ensemble leurs engagements, des engagements qui ont été pris en mai 2021 à Nyabiondo Centre. Objectif, réduire sensiblement les principaux facteurs de l'insécurité dans ces territoires parmi lesquels les conflits communautaires. Reportage à Goma de Gilles.
Les journalistes présents à l'ouverture officielle du forum ont expressément posé cette question aux autorités militaires du Nord Kivu. La réponse du vice-gouverneur militaire Ekou Kalipopo qui a ouvert le forum.
Nous ne pouvons pas administrer la province du Nord Kivu sans prendre en compte certains problèmes, notamment ce conflit intercommunautaire qui, à certains moments, commence à empiéter un peu sur la manière de diriger la province.
Mais ce n'est pas la première fois que les enfants de Masisi se réunissent pour discuter de leurs difficultés à cohabiter pacifiquement en tant que communautés ethniques. La chef de bureau de la MONUSCO à Goma estime que la mission doit aider les protagonistes à saisir toutes les occasions offertes. Laïla Bouril.
J'espère qu'au cours de ces 2 jours, les participants vont aussi explorer les opportunités qui se présentent.
Les travaux de ce forum devraient être clôturés ce vendredi. Goma, Jules Galawamona, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la vie a repris son cours normal à Mayangose et à Kididiwe. Ce grenier de la ville de Beni, jadis bastion des rebelles ougandais de l'EDF, est actuellement sous le contrôle des FARDC. Les agriculteurs de la zone plaident pour la construction des écoles en vue de l'éducation de leurs enfants. À Beni, la correspondance de Guylaine Kassassia.
Selon Paluku Nestor, président des cultivateurs de Mayankosi dans les Kididiwe, la vie a repris normalement dans cet ancien bastion EDF. Il salue la construction d'une chapelle dans la zone et descendait par les militaires FARDC, bien que ces derniers nécessitent un appui en médicaments au regard du besoin local. Actuellement, plus de 5000 cultivateurs s'y rendent pour effectuer leurs activités. Ces retours d'un nombre important de populations nécessitent la construction de certaines infrastructures nécessaires, estime Paluku Nestor. À Kididiwe vraiment, le nombre des cultivateurs a sensiblement augmenté. Ils vivent bien et rendent aisément leurs travaux champêtres et le produit champêtre provient sans aucun problème. Ceux qui vivent actuellement sont plus de 250 ménages. Compte tenu du nombre d'enfants qui s'y observent, il nous faut une école. Il nous faut aussi un marché car un espace y est déjà prêt. Il ne reste que le lancement des activités. Mais aussi, il nous faut de l'eau propre pour que les milieux se développent. Nous vivons vraiment en franche collaboration avec le militaire. Pour rappel, c'est depuis le mois de novembre dernier qu'une base militaire construite sur fonds propres de la MONUSCO avait été remise au FARDC à Kididiwe en vue d'y restaurer l'autorité de l'État et assurer la protection des civils. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Et puis, l'arrivée à Goma prévue pour le mois de juillet prochain du pape François suscite déjà de l'espoir en vue de la restauration de la paix au Nord Kivu. Des habitants de la ville de Goma interrogés par Radio Kapi aujourd'hui saluent l'arrivée du Saint-Père, 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II en RDC. Bernardine Diambou a promené son micro dans les rues de la ville.
Cette femme fidèle de l'Église catholique a exprimé ses sentiments de joie pour l'arrivée des Saint-Pères à Goma. Elle a donc hâte de voir le pape de ses propres yeux et entendre son message de réconciliation et de réconfort, mais surtout de les voir prier pour la population du Nord Kivu, victime des différentes guerres. Déjà, Madame Bertine Ndiki dit caribou au pape François sur la terre volcanique de Goma.
En tout cas, nous sommes très ravis d'avoir qu'il va arriver ici. Ça sera la première fois pour nous de recevoir le pape dans la province du Nord Kivu. Qu'il soit le bienvenu.
Même sentiment de joie et de satisfaction du côté de cet habitant. Pour lui, cette visite va résoudre tant soit peu la situation sécuritaire tant décriée au Nord Kivu. Et cela, vu que le Saint-Père est influent et écouté dans le monde, car il a pour mission de traduire en prière la Charte des Nations Unies.
Bienvenue au pape François, parce que d'abord, il est le responsable numéro un de l'Église catholique. Donc, nous attendons qu'il puisse nous aider à surmonter des difficultés, à briser la haine, à bannir la guerre et pour construire la paix.
En attendant, les autorités provinciales et ecclésiastiques du Nord Kivu s'activent dans les préparatifs de cette visite historique du Saint-Père de l'Église catholique, le pape François Goma. Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Quand les femmes prennent la paix en main, c'est le thème d'une exposition photo qui se tient ici à Kinshasa du 10 au 27 mars à l'espace Texaf Bilembo dans la commune de Ngaliema. Une œuvre de Lei Ouera, une journaliste congolaise évoluant dans la ville de Goma au Nord Kivu. Jean-Marc Matouaki a couvert l'événement. Son reportage est rendu ici par Noël Alouzi Tukabambi.
L'exposition présente 14 femmes du monde entier qui ont joué un rôle de médiatrice auprès des groupes armés, participé à des pourparlers de paix, proposé des solutions politiques et plaidé en faveur des droits des femmes et de leur participation. Leurs histoires nous parviennent de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, notre pays, du Mali, du Soudan du Sud, du Liban, du Yémen et de la Colombie. À RDC, c'est Madame Fifi Baka, porte-parole nationale du mouvement Rien sans les femme qui est la seule femme à être photographiée par la photojournaliste congolaise évoluant à Goma, Lei Ouera. Cette expo a été présentée pour la première fois au Festival Photoville de New York le 18 septembre dernier. Ici à Kinshasa, le coup d'envoi de cette expo a été donné par le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Tioy, représentant la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en présence du directeur de cabinet de la ministre du Genre, Famille et Enfants.
Actualité internationale.
Au 16e jour de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe a étendu aujourd'hui son offensive à la grande ville de Dnipro et poursuivi encore ses bombardements qui frappent systématiquement habitations et infrastructures civiles, notamment à Mariupol où la situation est devenue critique, au risque de nouvelles sanctions massives des Occidentaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir ce vendredi à la demande de Moscou. En même temps, l'Afrique du Sud pourrait-elle jouer un rôle de médiateur dans la crise entre la Russie et l'Ukraine? Le président Cyril Ramaphosa annonce qu'il a été approché pour jouer un rôle en raison de ses bonnes relations avec Moscou. Et puis en Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé ce vendredi matin en conseil de ministres la tenue d'assises nationales à partir du 22 mars sur l'ensemble du territoire national. Le programme détaillé et la durée de ces assises ne sont pas encore connus. Cependant, sachez que le premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de préparer ces rencontres.
L'invité.
Notre invité, c'est la coordonnatrice nationale du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Madame Gisèle Tabou parle de ce projet de 7 ans qui sera mis en œuvre dans les provinces du Maniema, du Kasaï oriental, du Kasaï central et de l'Omami et qui coûtera 130 millions de dollars américains. Elle s'entretient à ces sujets avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Gisèle Tabou. Vous êtes la coordonnatrice nationale du projet PADRIR. C'est un projet d'appui au développement rural inclusif et résilient. Et vous êtes venue en Mbujimayi pour expliquer le projet. Qu'est-ce que signifie ce projet PADRIR?
Le PADRIR est une initiative du gouvernement congolais dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit d'un projet qui couvre 4 provinces. Le PADRIR est une mise à l'échelle d'un projet qui a été mis en œuvre dans les années précédentes dans la province du Maniema, qui s'appelait PIRAM. Avec le PADRIR, il s'agit là d'un financement de 130 450 000 dollars. C'est un cofinancement du FIDA, de BADEA ainsi que de OFID, auquel s'ajoute une contribution du gouvernement congolais. Et le PADRIR se veut un projet à mode participatif. Donc les bénéficiaires des 4 provinces contribueront à la réalisation du programme, notamment avec des apports en nature sur les travaux.
En quoi consiste ce projet?
Le PADRIR a 2 composantes opérationnelles. La première composante vise à renforcer essentiellement les aspects liés à l'amélioration de la productivité et des revenus dans le secteur de la production agricole. Nous allons améliorer l'accès aux intrants, faciliter la commercialisation et aussi aider à structurer les différents acteurs avec ici l'objectif de faire participer les jeunes, les femmes dans les différents segments de la chaîne de valeur agricole, mais aussi de renforcer tous les aspects liés à la nutrition, de contribuer de manière plus substantielle à l'inclusion sociale. Le PADRIR a reçu un financement du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA en sigle, et le FIDA travaille dans les pays où il intervient essentiellement sur une approche de résilience du milieu rural. Avec les changements climatiques, nous visons aussi à renforcer cette résilience des producteurs. Dans sa deuxième composante, le PADRIR va mettre en place les infrastructures de commercialisation dans le cadre de l'approche qui a été convenue et agréée entre le gouvernement congolais et le FIDA. Nous voulons aujourd'hui, travailler à avoir un environnement rural qui est suffisamment résilient et attractif. Donc c'est ainsi que lorsque nous parlons d'infrastructures, nous voyons des infrastructures qui sont destinées essentiellement à faciliter la chaîne logistique, la chaîne de commercialisation, faire arriver la nourriture dans les centres de consommation, mais aussi nous abordons aussi la question des infrastructures sociales. Nous visons d'améliorer la nutrition. Nous allons travailler sur la construction ou la réhabilitation des centres nutritionnels, des centres de santé ou des hôpitaux. Nous travaillons aussi avec le secteur de l'éducation à travers la réhabilitation d'écoles et l'intervention sur des programmes scolaires afin de créer une nouvelle vision de citoyenneté, de leadership et d'appropriation du monde rural.
Il y a eu aussi des projets tels que Pressar, Prise qui est opérationnel jusqu'à maintenant et même PADRIR. Quelle est la différence? Parce que nous voyons que les domaines d'intervention sont presque les mêmes. Qu'est-ce que Badrir va apporter de nouveau?
Je peux dire que la différence, c'est que d'abord, dans le cadre de Badrir, nous faisons de l'agriculture, mais tout en ayant une vision globale et intégrée avec les différents autres secteurs. Nous voulons justement promouvoir cette chaîne de valeur-là qui part du champ, qui travaille sur les aspects post-récolte, les aspects de commercialisation, sur des aspects de nutrition et d'éducation, par exemple. Et en même temps, nous nous intéressons à la question de la résilience face au changement climatique. Nous visons à rendre beaucoup plus performants les entités qui sont les acteurs principaux et en même temps les bénéficiaires du projet. Par exemple, les centres de l'INERA, Ngandajika, qui sera automatiquement intégré pour accompagner le projet. Ce que Badrir amène en plus, c'est cette approche, par exemple, de renforcer les infrastructures sociales.
Madame Gisèle Taboulea, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invitée de Radio Okapi, la coordonnatrice nationale du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Madame Gisèle Taboulea était interviewée à Mbujimayi par Esther Nalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Pierrot Elameji et Noël Aluzitu qui m'ont accompagné. Retrouvez cette édition sur www.radiokapi.net.